Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Dans une poignée de secondes, nous allons faire le bilan de l'aventure de Loïc et Ophélie dans Marie au premier regard avec Loïc, qui sera notre invité exceptionnel. On va parler également de la doc Helvéto qui va signer son dernier épisode demain soir sur France 3. À cette occasion, une véritable hola aujourd'hui avec le producteur historique Christian Gerin, mais également Gabrielle Gerin, la directrice littéraire et artistique de la série, et le héros Michel Simès qui seront en ligne avec nous. On va parler également de la fiction des blessures invisibles qui sera diffusée mercredi à 21h10 sur France 2. Sarah Marx, qui est à la réalisation, viendra nous en parler. Et puis en fin d'émission, c'est l'événement très attendu. Elsa Esnou, l'une des 5 plus grosses vendeuses de disques en France, va nous présenter son 7e album, mais également nous parler évidemment de son rôle de Fanny dans Les Mystères de l'amour, va nous parler de Amour, Gloire et Beauté, et tous ses projets vont y passer. Rendez-vous donc en fin d'émission avec Elsa. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Marie au premier regard qui revient ce soir pour une nouvelle émission inédite. Et on va découvrir eh bien, le bilan, c'est un peu l'heure du bilan pour Ophélie et Loïc, qui est justement avec nous. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on n'a pas raté une bouchée de ton aventure, Loïc. Et franchement, vous nous avez emmenés dans des émotions, franchement, tous les deux avec Ophélie, assez dingues depuis le début de cette aventure. Mais on va revenir un petit peu quand même à la genèse de tout ça. Loïc, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette aventure assez incroyable ?
Alors j'ai fait Marie au premier regard au départ parce que je voulais trouver l'amour avec un grand A et parce que je voulais sortir un petit peu de cette zone de confort et de ces habitudes de rencontres du quotidien dans des bars, en soirée, etc. Et je pense que la science peut nous aider à trouver l'amour. Du coup je me suis lancé les yeux fermés dans cette expérience.
Et puis belle aubaine, parce que pour une fois, on avait un appel à candidature justement en Nouvelle-Aquitaine, où tu résides, et effectivement, l'aventure a fait pause dans cette région-là. Et puis, ben évidemment, après, il y a tout un emballement qui se fait entre le moment où tu sais que tu vas être pris pour l'émission jusqu'au jour du mariage où ils sont tournés fin septembre, du côté de Gibraltar. Comment on vit toute cette période ?
C'est une période qui est hyper compliquée parce qu'on passe par des phases d'émotions incroyables. On a des phases de stress, des phases d'angoisse. On est parfois très heureux, parfois plus stressé. Que ceux qui le vivent peuvent le comprendre en fait. C'est indescriptible, c'est extraordinaire, c'est fou en fait. C'est fou à vivre.
Alors on va revenir un petit peu sur le début de l'aventure avec Ophélie. Dès le début, on a senti dans tes yeux il y avait un effet waouh. Quand tu l'as vu arriver, vraiment entre vous deux, toi en tout cas, t'es tombé tout de suite sous son charme en la voyant. Donc après, l'aventure et la suite dira si le charme a perduré. Mais en tout cas, sur le coup, on a vraiment eu l'impression que t'es tombé sous son charme.
Effectivement, quand je vois Ophélie au premier regard, c'est le waouh, je le dis en plus dans ce passage de l'expérience. C'est une fille qui est hyper solaire, hyper pétillante, elle a un sourire magnifique et elle dégage quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, effectivement, je suis sous le charme d'Ophélie dès le premier regard.
Alors, ce qui était vraiment chouette, c'est la réaction de ta maman quand tu lui as annoncé effectivement que tu allais participer à l'aventure. Sur le coup, elle a eu quelques petits temps d'arrêt, hein, je crois qu'on peut le dire, parce que je crois que tu as prétexté un tournage pour le coup sur les ambulanciers à l'époque. Et puis très vite, en fait, hein, elle t'a suivi, quoi. Elle t'a dit, ok, c'est génial. Évidemment, je vais t'accompagner, mon fils. Et ça, c'était beau de vous voir tous les deux là-dessus à l'écran. Je me rappelle encore dans votre petit bureau là.
Alors oui, effectivement, ça a été un moment très stressant pour moi, l'annonce à ma mère, parce que j'appréhendais beaucoup sa réaction. Et effectivement, j'ai prétexté un tournage pour le métier d'ambulancier. Donc je lui ai caché ça pendant de nombreux mois. Ça a été d'ailleurs très compliqué pour moi, hein, puisque je lui dis un petit peu tout, c'est ma confidente au quotidien. Et j'ai été très heureux de sa réaction, parce que même si au départ elle est un peu choquée et étonnée, en même temps, quelle maman ne serait pas étonnée
Qui ne serait pas, c'est ce que j'allais dire, on le serait moins que ça.
Exactement, c'est ça. Donc elle a été étonnée, mais je ne doutais pas au fond de moi qu'elle allait me suivre dans cette expérience et qu'elle allait me soutenir jusqu'au bout.
Alors, un mariage idyllique, une soirée de mariage, on te sent un petit peu sur la retenue, pour le coup sur la séance photo. Et puis, il y a ensuite effectivement le départ en voyage de noces. Les choses se compliquent un peu entre vous. Il y a des incompréhensions qui se mettent en place un peu des deux côtés. Et tu passes un peu pour celui, justement, qui parle pas trop, qui est un peu fermé, un peu au début. On a un peu l'impression du syndrome de l'imposteur. On sait que des fois, le montage fait les choses de manière un peu différente de ce qui se passe dans la réalité, mais en attendant, c'est un voyage de noces, à mon avis, dont tu vas te souvenir, quoi, hein, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, c'est moins qu'on puisse dire dans votre aventure.
Alors effectivement, au mariage et pendant la séance photo, ça a été un moment qui était très compliqué pour moi. Je vais pas le cacher, de toute façon ça s'est vu, hein, parce que je suis très stressé à ce moment-là. Et puis il faut rappeler qu'on se marie à une inconnue, à une personne qu'on ne connaît pas, donc c'est pas forcément évident. Et puis il faut mettre le contexte aussi, on a une caméra qui nous filme, c'est assez compliqué de se libérer. Déjà une séance photo, je dirais, dans un mariage normal, ça peut être pas forcément évident. Mais là encore plus, être tactile avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou depuis juste quelques minutes, quelques heures, c'est pas évident. Et après, effectivement, on part donc au voyage de noces avec Ophélie. Et c'est toujours un peu les montagnes russes entre nous, c'est très compliqué, on a du mal à se comprendre, on a du mal à échanger, du mal à communiquer. On montre souvent comme quelqu'un qui ne communique pas. Effectivement, il y a eu des passages où j'ai pas communiqué, d'autres passages où j'ai communiqué qui n'ont pas été montrés forcément. Mais ça reste un résumé en fait de notre histoire, de ce qu'on a vécu jusqu'à la fin du voyage de noces.
Alors, c'est en tout cas une aventure assez hors du commun. Je pense que personne peut se mettre à votre place tant que vous n'avez pas vécu une aventure pareille. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec les caméras qui vous suivent, le stress, etc., on t'a senti des fois certainement un peu aussi paralysé à cause justement de ces caméras. Est-ce que t'étais bien préparé à ça? Est-ce que tu te doutais de ça?
Alors, j'étais préparé, oui et non. Je savais qu'en faisant cette émission, j'allais être suivi par des caméras, etc., mais je me rendais pas compte à quel point j'allais être vraiment exposé et montré, enfin, j'allais avoir autant de caméras autour de moi. Et c'est pas évident d'apprendre à connaître quelqu'un, de réagir, d'être tactile avec quelqu'un face à deux caméras et face à un...
De se laisser aller quand on sait que des centaines, des milliers de personnes, des millions de personnes aujourd'hui vont vous regarder en plus.
Exactement. Et puis, c'est vrai qu'on y pense aussi. On se dit, mince, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et en fait, des fois, on se laisse. C'est un peu l'effet tunnel, en fait. Une fois qu'on est perdu et qu'on a du mal, et c'est l'effet tunnel. On se perd et on a du mal à se comprendre. Et en fait, il y a eu ce déclic à un moment donné avec Ophélie lors d'une discussion qui a fait que on s'est dit, on va se laisser aller, on va essayer d'oublier les caméras. Et c'est ce qui fait que, à la fin du voyage de noces, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide entre nous, en fait.
Oui, parce qu'il y a un switch après l'appel avec Gilbert aussi qui, j'espère en tout cas, a été de précieux conseils pour toi et t'as vraiment accompagné sur cette aventure. Mais il y a eu effectivement un switch total sur le dernier jour. Là, on a eu l'impression en tout cas que la communication était là et vous étiez en train de commencer en tout cas à vous découvrir un petit peu.
Alors oui, effectivement, c'est montré comme un vrai switch. On passe du rien du tout à vraiment une grosse discussion, à un vrai échange. En fait, ça a été quand même plus modéré et plus simple, en fait, même les quelques jours avant. J'ai eu une discussion avec Gilbert qui m'a aussi aidé. Et la grosse discussion qu'on a eue avec Ophélie m'a vraiment libéré, et elle aussi, au passage. Donc il y a eu Gilbert, mais il y a eu aussi le travail qu'on a fait entre nous en off. Malheureusement, ça ne s'est pas vu et parce qu'on n'avait pas de caméra à ce moment-là. Ça a été un changement de comportement qui paraît à la télé hyper radical et hyper franc d'un coup. Et en fait, ça s'est fait sur le pas le long terme, parce que c'est très très court le voyage de noces, mais
au fur et à mesure, ça s'est pas fait d'une minute à l'autre en tout cas. Puis après il y a eu le retour en France et là vous vous êtes pas donné de nouvelles pendant un certain temps, pour le coup très peu du moins, mais Ophélie en tout cas est venue chez toi pour venir découvrir ta région, ton univers aussi. Ça a été un moment assez compliqué quand même.
Oui, effectivement, il y a eu le retour en France. Je m'attendais pas à un retour en France comme ça. Quand j'ai fait cette expérience, je me suis dit je vais trouver l'amour, etc. Et c'est vrai que je pars un peu du voyage de noces un peu heureux parce que le dénouement du voyage de noces se passe plutôt bien, mais je garde un petit goût amer en fait et j'ai du mal à rentrer en France, à reprendre contact avec Ophélie, à garder ce lien, etc. et à créer ce lien. Donc on perd très vite le contact au bout de 2-3 jours seulement après notre retour et on échange quasiment pas pendant 15 jours. Et on décide avec Ophélie de se redonner une chance, de faire un reset comme on dit. Et donc Ophélie me rejoint chez moi en Charente-Maritime et on passe un week-end extraordinaire. Je découvre une nouvelle Ophélie, elle découvre un nouveau Loïc aussi au passage.
Compétiteurs les deux, quand même, surtout quand il s'agit de karting.
C'est ça, très compétiteur. On a envie de gagner, moi je ne laisserai pas gagner même si c'est ma fan, c'est ma femme, c'est hors de question. En plus je suis très mauvais perdant donc c'est hors de question que je perde. Donc, mais il y a cette complicité qui se crée lors de ce karting. C'est naturel, c'est très drôle, c'est sympa. Et après on a le moment du repas, le repas que je lui ai préparé parce que j'avais gagné, donc je lui ai fait à manger. C'est un repas un peu des vérités et des explications où on échange sur le fait qu'on n'a pas communiqué pendant 15 jours, on se rend compte à nouveau qu'en fait
encore quelques incompréhensions.
Il y a des incompréhensions, on communique pas de la même façon et en fait on se rend compte que c'est compliqué entre nous de communiquer, donc on se dit on va repartir à zéro de nouveau et on va aller sur de bonnes bases.
Comment vaut-il apprendre, en tout cas s'appréhender ces deux-là, c'est ce qu'on va continuer à suivre, c'est l'heure du bilan, en tout cas ce soir dans Marié au premier regard pour Ophélie et Loïc. On espère évidemment un dénouement heureux, si c'est un dénouement heureux tant mieux, si le dénouement l'est moins, en tout cas tu regretteras rien de cette expérience.
Je ne regrette rien et je ne regretterai quoi qu'il se passe, rien du tout en fait. C'est une expérience qui est extraordinaire à vivre, qui m'a changé complètement du tout au tout et qui me servira pour la suite de toute façon.
Est-ce qu'il y a d'autres émissions que tu aimerais faire? Maintenant que t'as fait Marié au premier regard, t'as ouvert un peu la boîte de Pandore. Si t'avais un appel à la production là à lancer, tu m'as confié juste avant qu'on prenne l'antenne ensemble que t'étais un peu fan de Pékin Express, que c'est une émission que t'adorais faire.
Alors oui, si je devais choisir une émission que je ferais, c'est Pékin Express pour l'aventure, pour encore une fois sortir encore de nos zones de confort parce que c'est une expérience qui doit être aussi dingue à vivre que celle de Marié au premier regard. Voilà, ce serait Pékin Express, je pense, si je devais choisir.
Voilà, s'il y a une nouvelle édition anniversaire avec des duos de choc, des duos de personnalités ou des candidats des émissions d'M6, eh bien au moins, vous savez que Loïc a envie de partir. Voilà, le sac à dos rouge peut être prêt très rapidement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, d'être revenu sur ton aventure, d'avoir fait un peu le bilan de tout ça. Et puis on va suivre le dénouement en quelque sorte, voilà, ce soir avec le bilan de Ophélie et Loïc dans Marié au premier regard. À bientôt.
À bientôt, merci.
La semaine prochaine dans Marié au premier regard. Au terme de plusieurs semaines aussi intenses qu'imprévisibles. Les couples de Marié au premier regard vivent leurs derniers instants dans l'expérience.
Franchement, je suis saoulée.
Marie et Jérémy et Loïc et Ophélie vont faire le bilan de ces quelques mois qui ont changé leur vie à tout jamais. Nous retrouverons également Romain, dont l'histoire va connaître un rebondissement totalement inattendu. Et nous retrouverons Tracy et Flo plusieurs mois après la fin de l'expérience.
Allez, c'est parti.
Prête à découvrir? Je sais pas.
Sont-ils toujours ensemble?
Tac.
Allez, bougez pas, dans un instant, on revient avec notre spécial Doc Helvéto avec Sarah Marx, mais également avec Elsa Esnou, nos invités aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant.
J'suis pas certain d'avoir trouvé ma place, j'suis pas certain, mais pour éviter la casse,
j'ai trouvé ma petite lady Mélodie. Wow, 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 wow.
Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle.
j'ai déjà tout essayé. Elle chante quand la vie me blesse et je chante à ses côtés. Dans les orages, les tempêtes, jamais elle ne m'a quitté quand je m'arrête d'avancer. J'ai trouvé,
elle est le soleil que j'attendais.
Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est Malaisie, Mélodie. Avec elle je fly away. Tu vois comme un oiseau là-haut je fly away. Quand j'entends sa mélodie je fly away. Il n'y a qu'elle qui me comprenne, je fly away. Elle me donne le fire et je fly away. J'évite les failles de la vie et je fly away. Tu vois comme un oiseau là-haut, je fly away. Comme un oiseau qui plane et je fly tout là-haut, tout là-haut. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé cette semaine va s'intéresser évidemment au dernier épisode de la Doc Helvéto qui sera diffusé demain soir sur France 3 à 21h10, un épisode intitulé La Plume Noire. On est là depuis le premier épisode aux côtés du producteur Christian Gérin qui est avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour.
On va faire une spéciale, une hola pour ce final en tout cas qui nous attend. Dounia est avec nous la semaine dernière pour cet avant-dernier épisode. Et puis là cette semaine on va voir Gabrielle Gérin, ta fille justement est directrice littéraire et coproductrice de la série Michel Simès qui vont nous rejoindre aussi. Christian, je crois que c'est vraiment une série qui tenait à cœur de mettre aussi le monde rural à l'honneur à travers cette série.
Oui, oui, absolument. Bon, on va faire une hola à deux, ça va pas être énorme. Hein. Bon, enfin bon.
Oui, mais il y a les auditeurs qui nous entendent de l'autre côté.
Oui, 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 c'est une idée que j'aimais bien parce que... D'abord, moi, j'habite un village, Mornac-sur-Seudre, à côté de Royan. Et je trouve qu'il y avait vraiment très peu de fiction, de téléfilms qui étaient faits dans les territoires sur les problématiques des territoires. Quand je suis allé proposer cette idée à Delphine Ernotte, c'était au début de son mandat, je lui dis voilà, sous couvert des aventures d'une toubib et d'un vétérinaire, donc incarné par Michel Simès et la toubib par Dounia Cossens, mais à l'époque on n'avait pas encore le casting, à travers leurs aventures et la façon dont ils s'associent pour utiliser les ressources de la médecine vétérinaire et de la médecine humaine pour résoudre des cas, on va traiter d'épisode en épisode différentes thématiques, j'en avais listé une dizaine, dans lesquelles il y avait les écolos contre les chasseurs, le suicide des paysans, les pesticides, les corbeaux, les légendes, etc. etc. Et sa première réaction, ça a été de me dire « Mais t'es sûr que tu vas pas faire chier tout le monde ?» Et j'étais persuadé du contraire, et la suite l'a montré, puisque...
Le premier épisode est arrivé en tête des audiences devant toutes les autres chaînes, c'était incroyable.
Et d'une façon générale, on est toujours en tête. Alors, évidemment, on fait pas les scores des grands polars, des grands téléfilms polars de France Télé, mais de la même façon que les bouquins naturalistes se vendent moins que les policiers, c'est une chose. Mais pour nous, c'est un honneur de faire en prime time, dès 90 minutes, où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de meurtriers. Et on a l'impression d'être au plus près de la vie quotidienne des gens qui vivent dans les territoires et de raconter une ruralité qui est assez proche de la vérité.
Alors, ce dernier épisode va s'intéresser, notamment, on va en parler avec Gabriel évidemment aussi, Michel dans un instant, mais s'intéresse principalement, que fait-on de nos aînés quand ils commencent à décliner et quand... Encore plus est dans les territoires ruraux. Il y a des difficultés à se déplacer. Il y a des fois, effectivement, le monde soignant qui est complètement dépassé par les événements et où c'est trop loin. Il y a personne pour venir s'occuper de ces personnes-là. Comment résout-on ces problématiques-là? Ça va être un peu le cœur, en tout cas, de ce dernier épisode.
C'est tout l'enjeu du maintien à domicile ou pas. Maintien à domicile qui est difficile dans les territoires quand il n'y a pas d'aide-soignante ou d'infirmière qui puisse se déplacer. La mise en EHPAD, ben, souvent, c'est une charge énorme, une charge financière énorme.
Hein. Une charge mentale aussi, hein, je crois qu'on peut en parler. On ne met pas toujours de gaieté de cœur. Nos anciens en EHPAD, et eux n'y vont pas non plus de gaieté de cœur.
Alors, charge mentale pour les anciens et pour la famille qui se sépare de ces anciens, parce que la tradition, c'est quand même de mourir chez soi, de mourir à la ferme. Bon. Et donc, c'est un petit peu ce thème-là qu'on traite avec un autre classique du monde rural qui est les lettres de corbeau. Les plumes noires, c'est la signature d'un corbeau dans le village, dans ce village de Besse où on a tourné, dans le Puy-de-Dôme.
Alias Valrande-les-Chantelles.
Valrande-les-Chantelles, en fait, on a tourné à Besse. Et ça aussi, c'est un bonheur parce que le fait d'avoir tourné 6 épisodes dans des décors récurrents qui sont le cabinet du veto, le cabinet... qui sont en fait l'ancien hôpital de Besse. Ça fait qu'on a quand même fait 150, 180 jours de tournage sur place, dans un village. Donc, un décor naturel et récurrent, ça fait que pendant plusieurs années, 4 ans en l'occurrence, on a fréquenté, on a tissé des liens avec les gens de Besse, avec les commerçants et avec tous les personnages qu'on a rencontrés au fur et à mesure de nos épisodes, qu'il s'agisse d'éleveurs de moutons, d'éleveurs de vaches salaires, de dresseurs d'animaux. Il y a énormément d'animaux dans cette série. Il y a un chien, ça m'a éclaté. Il y a un chien qui a été dressé à l'envers pour les besoins du film. C'est-à-dire quand on lui dit coucher, il se lève, quand on lui dit tais-toi, il aboie, quand on lui dit aboie, il se tait, etc. C'est un travail de dresseur tout à fait étonnant. Oui, c'est dans cet épisode qu'on voit le chien dressé à l'envers. Oui.
Découvrir en tout cas la Doc Helvéto revient demain pour un ultime épisode. Alors, c'est un peu la mode des chaînes qui mettent fin un peu aux séries comme ça. France Télévisions en a arrêté énormément, mais malgré tout, de temps en temps, quand elle voit le succès qui est encore là, ou les téléspectateurs, ou des regains un peu d'intérêt des téléspectateurs, notamment sur un dernier épisode, ils reviennent des fois un peu sur leur décision. Est-ce que toi t'as encore un espoir peut-être que l'on puisse revoir Pierre et Emma dans une nouvelle aventure ou un épisode événement dans les mois qui viennent ou les années qui viennent? Est-ce que toi secrètement t'en as envie en tout cas?
Oui, bien sûr, on va. Il ne s'agit pas de tirer en longueur une série. J'ai dit qu'on avait identifié une dizaine de thèmes, on en a tourné 6. Ça s'est arrêté sur fond de tension entre TF1, auquel appartient la société que je dirige, et France Télévisions. Ces tensions semblent s'être apaisées. Pourquoi pas? J'aimerais bien en faire un 7e et un 8e, voilà.
On verra en tout cas de quoi l'avenir sera fait. Merci Christian, on va écouter la bande-annonce, un petit extrait évidemment pour se plonger dans cette plume noire. Et puis on revient juste après avec Gabriel et Michel qui nous rejoignent en ligne. Merci à toi.
Merci.
Inédit. Mardi sur France 3, une ombre plane sur le village.
On n'a pas reçu un courrier avec une plume de corbeau par hasard?
J'ai signé la plume noire.
Corvus frugilegus, autrement dit un corbeau freux.
C'est vous le veto, ça vous trouvez le corbeau.
Méfiez-vous de tout le monde, la menace peut surgir de partout.
Respire. Gardons la tête froide.
Âme sensible, ne pas s'abstenir. La Doc et le veto inédit, mardi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
Et on continue notre coup de cœur télé avec la Doc Helvéto. Demain soir, dernier épisode inédit. Merci Christian d'avoir été avec nous. Et puis on va enchaîner avec Gabriel Gérin qui est avec nous. Bonjour Gabriel.
Bonjour à tous.
Gabriel qui est la directrice littéraire et artistique justement de la Doc Helvéto depuis maintenant quelques années. Et puis le héros de cette série, après l'héroïne, on a commencé par les filles la semaine dernière avec Dounia. C'est Michel Simès qui nous rejoint. Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux pour fêter ce dernier épisode avec un petit goût d'amertume. Mais après, je dirais que l'espoir fait vivre et puis qu'on a toujours peut-être encore une petite chance, en tout cas de retourner à Valrande, j'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, les faits sont là. Demain soir, on y va pour la dernière fois pour cet épisode à Plume Noire où il va être question évidemment du placement de nos anciens quand il devient difficile de s'en occuper et aussi du corbeau. Un corbeau va sévir à Valrande. Que d'histoire dans cet épisode?
Oui, il y a beaucoup d'histoires. On a voulu terminer, alors je sais pas si c'est la fin comme on nous l'a annoncé, mais on a voulu terminer, comme vous le dites, par un feu d'artifice. Et effectivement, il y a plein de petites histoires et des moments surtout très émouvants. Et moi, j'étais très content parce que j'avais envie que dans la série, il y ait des moments où j'ai la gorge nouée. Et ça a été, je pense, de tous les épisodes, le moment qui a été pour moi le plus fort en émotion. Je le parle en jouant, non seulement la scène elle-même, mais
ouais.
Voilà, le fait de rentrer dans ce personnage qui va avoir une relation un peu particulière ce jour-là avec son père, voilà, était un moment très fort en émotion et vécu comme tel par moi quand j'ai joué.
En tout cas, Gabriel, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que la semaine dernière, avec quasiment 4 millions de téléspectateurs hors replay, c'était un carton absolu, puisque la Doc et le Veto s'est même taillé la part du lion en battant la finale de Koh-Lanta.
C'est vrai.
Incroyable.
Oui, on est très très heureux, vraiment. On espère que la semaine prochaine, ça sera la même chose. On peut effectivement dire aux téléspectateurs que c'est un épisode très émouvant, puisqu'il y a la question donc du placement du papa du vétérinaire José, et en même temps ce corbeau qui amène plein de petites suspicions dans le village. C'est pas du tout un corbeau sordide, règlement de compte. C'est vraiment le côté un peu léger pour tendre au sujet de société qu'on voulait traiter dans cet épisode.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a des sujets importants aujourd'hui de la campagne qui ont été passés en revue lors de ces épisodes. Et toi, en tant que directrice et productrice artistique de la série, il y avait une dizaine de sujets qui étaient un peu sur les rangs. Donc, il y a encore de quoi écrire éventuellement à l'avenir. Mais je crois que c'est une série qui t'aura beaucoup marqué, toi, Gabriel, hein, aussi.
Oui, et puis c'est vrai qu'on a encore des sujets, sous le coude. Donc nous, on attend que ça, un feu vert pour écrire et développer. Mais effectivement, on a encore quelques sujets à traiter. Et je suis déjà assez fière de ce qu'on a traité dans ces 6 épisodes-là, qui peuvent parler à tout le monde en plus.
Si les audiences, évidemment, continuent sur cette belle lancée depuis mardi dernier, Michel, s'il y a un sursaut ou en tout cas un changement d'avis du côté de France Télévisions pour repartir pour un épisode ou deux, est-ce que toi, tu dis oui tout de suite?
Oui, bien sûr, je dis oui. Après, c'est effectivement à la fois très tentant et en même temps, c'est toujours très compliqué parce que d'abord, on est deux. Il faut que Dounia soit disponible, il faut que je sois aussi. Il faut qu'on ait des sujets très concernant et très fort, parce que si c'est pour faire un épisode histoire d'en faire un de plus, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment que l'histoire soit forte. Nous, avec Dounia, si on en a déjà discuté souvent avec elle, mais si il devait y avoir d'autres épisodes, on aimerait bien que les rôles soient presque un peu plus de failles, de blessures dans les personnages pour qu'on puisse aller plus loin. Moi, pardon de me répéter, mais la scène avec mon père dans l'épisode, ça a été presque jouissif pour moi en tant que, je dis pas acteur, parce que chaque fois j'ai du mal à dire, mais enfin bref, en tant que, je veux dire, en tant qu'acteur.
Tu peux te permettre maintenant, depuis Meurtre au pays d'Oléron quand même, il s'en est passé des choses et franchement, c'est franchement chouette à chaque fois.
C'est des moments qui sont marquants, je pense, qui doivent plaire à tous les acteurs, parce que là, il faut vraiment sortir ses tripes. Et voilà, c'est des choses comme ça. Si jamais on doit avoir d'autres épisodes pour répondre à votre question, à ta question, bah, il faudrait que ce soit un peu, voilà, avec des moments aussi forts.
Michel, ça fait partie de tes meilleurs souvenirs, justement, ces scènes que tu joues avec le comédien qui incarne ton papa dans la série.
Oui.
Ça fait partie de tes meilleurs souvenirs de ces 3 années passées dans la peau de Pierre José?
Oh, il y en a plein parce que, je crois, quand on me pose la question, je dis que je crois que mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai mis bas une brebis.
Ouais, c'était le premier épisode, ça.
Ouais, pour de vrai, avec un moment, c'est inoubliable. Et puis, en plus, j'ai acheté l'agneau pour éviter qu'il parte à l'abattoir. Donc, il vit grâce à moi. Mais il y a eu plein de moments extraordinaires. Et puis, c'est un ensemble. Hein, on a fait plusieurs épisodes. Les acteurs disent souvent que quand on joue, quand on part un mois comme ça, tous ensemble, on se crée une petite famille. Mais nous, on l'a fait plusieurs fois. Et on est tous restés, la plupart, en contact. On est amis, on se voit en dehors. En plus, c'était dans une région où on n'a pas beaucoup de tentations, même si le village de Besse est magnifique. On peut pas dire que tous les soirs, on avait envie d'aller en boîte, hein, parce qu'il y en a pas de toute façon. Mais ce qui fait qu'on était beaucoup les uns avec les autres.
Ouais.
On s'est créé un petit univers familial entre nous. Et ça, c'est des souvenirs extraordinaires. Alors après,
j'en ai été témoin d'ailleurs, hein, Michel. Hein. J'en ai été témoin quand même, parce que je suis venu vous rendre visite sur le tournage.
Ah oui,
j'en ai été témoin de cette alchimie, de cette amitié qui régnait entre vous tous.
C'était incroyable. Et pour moi, qui ne suis pas acteur professionnel, c'était pour moi quelque chose de fabuleux d'avoir cette bienveillance et cette amitié autour de moi. Après, bien sûr que la scène avec mon père qu'on voit dans le dernier épisode est un moment fort, parce que forcément qu'on pense à sa vie, à soi, parce qu'on pense à son père. Mon père est vivant encore aujourd'hui, il va très bien, et quand je tourne la scène avec mon père dans le film, je ne peux pas faire autrement que de faire un transfert avec mon propre père en me disant que c'est peut-être lui qui est là. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé aussi à la jouer en essayant d'être le plus
naturel possible. Mettant l'émotion, bien sûr. Gabriel, cette série, on le disait, là, a traversé plusieurs sujets, évidemment. Et on espère peut-être, voilà, qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, ce dernier épisode va-t-il nous permettre de trouver des réponses, par exemple, sur la mère d'Emma, sur un peu ce qui s'est tramé, ce qui a été un peu le fil rouge de cette série de ces 6 épisodes.
Alors, la mère d'Emma, ça a quand même été pas mal réglé.
Dans le cinquième.
Voilà, l'épisode 5 en Science Science qui a été diffusé mardi 4.
Oui.
Puisque bon, elle a la confirmation que sa maman est morte, que donc, ce qu'elle venait chercher à Valrand en se rapprochant de ce village, n'existe plus. La question qui reste en suspens maintenant, c'est de savoir si, comme ces 3 années sont terminées, les 3 années où elle devait exercer dans un désert médical pour justifier sa bourse, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle décide de rester au village? Est-ce qu'elle repart à la Salpêtrière? On ne sait pas.
C'est ce qu'on va découvrir. Évidemment, cas peut-être à la fin de cet épisode. Et puis on va le découvrir évidemment demain soir avec grande émotion. Alors moi, ce qui m'a fait très très plaisir évidemment, c'est de retrouver Mademoiselle Navarro, Emmanuel Boidron, à qui vous avez fait appel pour ce dernier épisode en guest.
Oui.
Et franchement, quel plaisir de l'avoir, Emmanuel.
Oui, moi je suis aussi très très fan du rôle qu'elle avait dans Navarro. Bon, la pauvre, on lui rappelle tout le temps, c'était quand même il y a 30 ans. Mais voilà, elle a fait de très belles choses depuis, elle est au théâtre aussi actuellement. Et ça a été vraiment très très agréable de tourner avec elle. Et justement, puisque vous disiez avec Michel qu'il y a une équipe, un sens d'équipe qu'on vit quand même tous ensemble pendant un mois, il y a 5 épisodes qu'on a fait avec la Fabrique de Lyon, c'est-à-dire l'équipe de France Télévisions de Lyon. Donc voilà, sur 5 épisodes, sur 3 années, on est quand même toujours avec les mêmes personnes pour travailler. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est heureux de se retrouver, qui est très agréable. Et là, j'espère qu'Emmanuel... nouvelle arrivée a été bien accueillie, a bien trouvé sa place, mais tout fonctionnait vraiment très bien. Il y avait aussi Caroline Loeb sur cet épisode.
Oui, tout à fait.
La Watt, entre autres.
Plein de beau monde. En tout cas, Michel, on va pas se quitter avant de parler de Qui dort père. Et ça, c'est très très bientôt, fin juin. Ça arrive sur France 2 avec Marie Portolano, où tu vas co-animer une soirée qui va peut-être nous faire prendre conscience, en tout cas, des dangers que cela peut représenter quand on manque de sommeil.
Ouais, c'est un format original. On a pris des volontaires et on les a empêchés de dormir pendant toute une nuit, donc ils ont veillé, je sais pas, 35 ou 36
heures. 36 heures, ouais. 36 heures, c'est incroyable, ouais.
36 heures, et on a fait des tests avant, pendant, après, pour montrer que le manque de sommeil pouvait jouer sur l'irritabilité, la concentration, tout un tas de choses. Il faut rappeler quand même que la principale cause de mortalité dans les accidents de voiture en France est liée à un manque de sommeil. Donc l'idée, c'était, de façon très ludique, parce qu'on se marre vraiment beaucoup pendant l'émission, qui a d'ailleurs été... assez compliqué à animer pour Marie et moi, tellement ils étaient excités par le manque de sommeil. C'était une cour de récré et on a plein de moments très drôles et en même temps beaucoup de moments où j'explique comment fonctionne le sommeil, pourquoi il faut pas s'en priver, quelles sont les conséquences d'une privation de sommeil, etc.
Et on va retrouver donc 6 personnalités qui se sont prêtées au jeu: Caroline Marguéridon, Linda Hardy, Francis Perrin, Titoff, Gwendal Marimoutou ou encore Hugo Bardin alias Paloma de Drag Race.
Caroline qui n'a pas arrêté de parler pendant 36 heures.
Ça ne m'étonne pas.
Ce qui a permis aux spots de tenir.
Elle a essayé de vendre des objets?
Non, elle a ce qu'on appelle en médecine une logorée, c'est-à-dire elle a besoin de parler. C'est son truc, elle parle tout le temps, elle dort pas. Et donc les autres tenaient grâce à elle. Parce que dès qu'il y en a un qui piquait du nez, elle venait voir.
Eh bien, une soirée avec Michel Simès, tous les mardis, en tout cas sur France Télévisions, eh bien, c'est à ne pas rater. Demain soir, la Doc et le Véton, inédit, dernier épisode. Rediffusion du 3e épisode, Lac du Diable, ça sera mardi prochain, le 18 juin, sur France 3. Et puis donc, le mardi 25 juin, 21h10, 4e mardi d'affilée avec Michel Simès, ça sera ce coup-ci sur France 2, aux côtés de Marie Portolano, sur Qui dort père. Merci beaucoup, Gabriel.
Merci beaucoup, merci à toi.
Merci, Michel. Et puis, à bientôt, j'espère. On croise les doigts.
À très vite.
On vous embrasse fort, à très vite.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré au téléfilm Des blessures invisibles qui sera diffusé mercredi sur France 2. Un téléfilm sur la manipulation psychologique au sein du couple. On va découvrir l'histoire de Camille qui disparaît du jour au lendemain et va se passer beaucoup de thèses, hein, bien sûr. Meurtre, suicide, fugue. En tout cas, eh bien, sa sœur et son mari vont mener l'enquête en parallèle d'une enquête policière qui va être menée par la capitaine Larivière. Et on va y découvrir quelque chose de bien plus profond. Aux manettes de ce téléfilm, Sarah Marx, qui est notre invitée. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Un sujet très d'actualité aujourd'hui, hein, la manipulation psychologique, les manipulateurs, et on en parle beaucoup aujourd'hui.
On en parle beaucoup et puis on n'en parlera jamais assez, je crois. L'idée sur les blessures invisibles, c'était vraiment de, comment dirais-je, de l'aborder du point de vue de l'entourage aussi, parce que je trouvais intéressant de déplacer le curseur et de se dire que finalement, souvent, quand on est à côté d'un pervers narcissique et dont on n'est pas nécessairement la proie, on a tendance à ne pas voir parce qu'on sait que souvent, dans le cadre du couple, le pervers cache extrêmement bien son jeu. Donc c'est vrai que c'était intéressant de le traiter du point de vue de la sœur du pervers narcissique, qui finalement, en faisant son enquête, en essayant de comprendre ce qui s'est passé avec la femme qui a disparu,
elle va finalement comprendre
et réunir les pièces du puzzle et revisiter finalement la relation que son frère avait avec Camille. Et elle va finir par ouvrir les yeux. Et je trouvais intéressant de l'aborder de ce point de vue-là.
C'est clair. Et en plus, alors, ce qui complique un peu la situation, c'est que Marie Desnarnaud, qui joue Marion, donc la sœur de Raphaël, jouée avec brio par Pierre Perrier, qui est absolument incroyable, c'est aussi la meilleure amie, du coup, de Camille. Et c'est même elle qui a présenté Camille à Raphaël des années plus tôt. Donc, au fur et à mesure de ce qu'elle va découvrir, elle va tomber, mais vraiment de désillusion en désillusion, allant même jusqu'à regretter de les avoir présentés, ça c'est clair, au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement, comme tu le disais, de prendre ce point de vue de la sœur.
Exactement, puis c'est le conflit de loyauté dans lequel elle se trouve, en fait. C'est-à-dire que même si elle commence à comprendre que finalement son frère était pas net, il y a un moment pendant le film où elle refuse finalement d'y croire, et puis au fur et à mesure, elle se rend bien compte quel est le vrai visage de son frère. Et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, parce que par ce prisme-là et par ce biais-là, ça raconte aussi à quel point, comment dirais-je, pour la victime, en fait, l'entourage est hyper, hyper important. Le film fait aussi, étudie la zone grise de la perversion psychologique, parce que malheureusement, elle est très difficile à prouver, parce que y a pas de traces, parce qu'il y a pas de coups. Donc l'entourage finalement joue un rôle primordial pour la victime.
D'après un livre, Les blessures du silence de Natacha Calestrémé, qui a été adapté sur un scénario de Laure de Colbert, mais c'est adapté d'un livre à la base.
Exactement, ça a été l'adaptation du bouquin, avec effectivement le point de vue très affirmé là pour le film de la sœur, et donc le point de vue de l'entourage. Traiter les perversions narcissiques du point de vue de l'entourage de la victime et du pervers. Et c'est pour ça que c'était intéressant de rester dans le cadre familial.
Mais oui, Natacha a été facile à, on va dire en quelque sorte, à décider quand vous lui avez proposé en tout cas toute sa adaptation de son livre.
Oui, il me semble qu'elle a été, en tout cas, elle n'a pas travaillé elle sur l'adaptation, elle a été ouverte en tout cas à ce qu'on adapte son livre, avec évidemment quelques libertés quand on passe un film où on ne peut pas s'en tenir stricto sensu au bouquin. Donc
bien sûr.
Il y avait vraiment le point de départ qui était très intéressant. En tout cas, elle a pas mis de frein au développement.
Alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, Sarah, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête, il y a vraiment des flashbacks pour nous faire comprendre aussi comment ils en sont arrivés là, et cette manipulation psychologique au fur et à mesure. Et il y a des flashbacks qui remontent assez loin dans les années, justement, pour qu'on puisse comprendre au fur et à mesure que l'enquête avance. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien d'imager tout ça.
Oui, c'était important. Enfin, ça me semble important de montrer tout le processus, parce que ça se fait finalement sur le temps, et c'est aussi comment finalement la perversion psychologique aurait pu pousser notre personnage de Camille au suicide. Et c'est tout ce qui interroge le film. Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Et finalement, je vais pas dévoiler ce qui s'est passé.
On va pas dévoiler la fin.
Voilà. Mais voilà. Finalement, ça interroge énormément de choses. Ça montre aussi à quel point c'est important d'ouvrir ses yeux, quoi, et d'enlever un peu ses œillères aussi. Et c'est là où je me dis, ça permet aux gens de se dire, tiens, de poser le regard au bon endroit, en fait, et de faire attention au processus de séduction aussi.
Ouais, et c'est ça qui est bien avec le personnage de la rivière joué par Luna Zabal, c'est vraiment justement que elle rentre sans parti pris et justement elle met des œillères de façon à pouvoir équilibrer de façon objective son enquête.
Et exactement, elle mène une enquête froide en fait.
Voilà, exactement, c'est sa froideur, ouais, que j'allais mettre un peu en avant justement aussi, mais qui permet aussi de se détacher de cette histoire pour peut-être mieux y rendre justice, quoi, en quelque sorte.
Exactement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire qu'elle avance dans cette enquête et dans cette histoire de manière très froide, là où à l'inverse, Marion, qui est interprétée par Marie Desnarnaud, n'est que dans l'émotion, hein, parce qu'elle est elle est un peu le mauvais témoin de l'histoire, en fait.
Tu m'étonnes, entre son frère et sa meilleure amie, enfin, comment arriver à s'étirer de tout ça, c'est juste impossible, quoi.
Et donc le parti pris du film aussi, c'est l'effet entonnoir en fait au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Voilà, l'enquête de la police et l'enquête intime de Marion, donc de Marie Desnardons, finissent par se rencontrer, s'entrechoquer quoi.
Les enfants aussi, hein, bien sûr. Hein, on va voir son toqueur de tout ça et son victime aussi, hein, de toute cette
évidemment,
histoire.
Les enfants, de toute façon, dans ce genre de situation, sont aussi des victimes collatérales. Et donc, c'était important également d'en parler. Et puis aussi de montrer que quitter un pervers narcissique, c'est une chose, mais c'est que le début d'un long combat, en fait.
Ouais, c'est clair. Le combat pour les enfants et les combats pour retrouver sa liberté. Il y a plein de choses qu'on va découvrir. En tout cas, effectivement, au casting, Marie Desnardons, Pierre Perrier, Sarah Souko, Lumna Zabal, ces quatre personnages sont vraiment clés dans tout ça, mais ils sont entourés par toute une galerie de second rôle absolument extraordinaire aussi. Alors, ne le ratez pas. C'est mercredi à 21h10 sur France 2. Je sais qu'en ce moment, il y a aussi un grand moment pour toi, Sarah, puisque t'es productrice du film Nouveau Monde qui sortira dans un peu plus d'une semaine au cinéma. De Vincent Capello. Lundi prochain, on recevra quasiment toute l'équipe du film qu'on va mettre à l'honneur aussi. Je sais que c'est un film important pour toi aussi.
Ah bah c'est un film très très important pour moi. C'est un très beau film que je vous invite à aller voir si vous le pouvez. Et je vais vous laisser le découvrir évidemment avec l'équipe du film. Mais il est très important. Il interroge aussi beaucoup de choses. Et en même temps, c'est un film très lumineux. Voilà, qui raconte les pérégrinations d'un jeune garçon qui arrive d'Afghanistan avec son frère. Et finalement, comment il va faire pour mettre un pied devant l'autre. Voilà. Et c'est un film extrêmement, qui traite de l'urgence aussi de s'en sortir, d'avancer, qui traite de l'exil, qui traite de l'amitié aussi. Voilà. Donc il y a une très, très belle histoire d'amitié entre Roïd et Chandor, Funtek.
Ouais.
Donc, je tiens à ces films. Donc, il faut absolument aller le voir.
Oui, il y a quelque chose quasiment même de documentaire, tellement il y a quelque chose de très réaliste, en tout cas dans ce film. Ils ont même gardé leur vrai prénom, en tout cas, de comédien.
Exactement, le réalisateur a fait ce travail-là. Hein. Ouais. Exactement, le réalisateur a fait ce travail-là, de documentaire, de recherche, et d'être au plus proche de ces personnages et vraiment être dans le souffle de Roïd et c'est ça qui, je pense, touche le cœur des gens quand ils arrivent à mettre les chaussures de Roïd et de comprendre de quoi il fait son quotidien.
Et donc, ça sortira le 19 juin au cinéma. Le film a été primé au Festival du film de demain à Vierzon. Puis nous, on recevra toute l'équipe donc lundi prochain dans Chut, on écoute la télé pour en parler. Merci beaucoup, Sarah. On se dit à bientôt.
Merci. À très vite. Merci.
Et puis, Les Blessures Invisibles, c'est donc mercredi 21h10 sur France 2. On se quitte avec un extrait. À très vite.
Coucou.
Ah bah enfin, tu décroches. Ça fait des semaines que je t'appelle.
Bah oui, mais bon, tu me saoules. Quand est-ce que tu vas comprendre?
Non, mais je te jure, c'est compliqué, là, entre le boulot, les filles...
Bon, ok, mais alors on se voit quand?
Cette semaine, c'est chaud. Mais c'est tout le temps chaud. Vas-y, tu sais quoi? On se voit demain, 18h, un verre après le boulot, et c'est pas négociable. Ok. Bon, bah alors, rendez-vous demain, 18h, face au cours de danse des filles. Ok, ça nous laisse une petite heure.
Ah bah, génial.
Non, non, on recommence pas. En plus, j'ai un truc à te dire.
Quel truc?
Je te le dis demain.
Vas-y, arrête, dis-moi.
Salut.
Je te laisse, bisous.
Et c'est l'événement dans un instant. Elsa Esnou nous rejoint dans Chut, on écoute la télé. Alors surtout, ne bougez pas, on revient juste après ça.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Je sais que tu seras belle. Je sais que tu rendras le monde plus fort. Dis comment tu t'appelles. Ma fille qui n'existe pas encore. J'ai du temps devant moi, avant toi, pour apprendre ce que j'ignore. 10 ans avant que tu viennes, le monde n'est pas le plus beau des décors. Mais dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voir. Si on a la nouvelle qu'on a gâché le plus beau décor, même si c'est sans appel, sache que je t'appellerai encore. Et je serai toujours là à chaque fois que personne ne sera d'accord pour te laisser tes ailes. Faudra couper les miennes d'abord. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà, tu peux me croire. Avant même que tu sois avec moi, quelle que soit notre histoire, je serai fier de l'avoir. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Et quand je m'endors, moi je rêve que tu viennes tout déranger. Et qu'on espère encore. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà, tu peux me croire. Avant même que tu sois avec moi, quelle que soit notre histoire, je serai fier de l'avoir. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, moi je rêve que tu viennes tout déranger. Avant même que tu sois avec moi, quelle que soit notre histoire, je serai fier de l'avoir.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre invité aujourd'hui, c'est Elsa Esnou qui est avec nous. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Chut, on écoute la télé. Album 7 depuis maintenant plusieurs semaines dans les bacs. C'est toujours un carton. Des fans toujours au rendez-vous, partout dans les dédicaces et les mystères de l'amour qui cartonnent. Bref, tout va bien.
Ah bah c'est sûr que j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens qui me soutiennent comme ça en plus depuis plusieurs années. Et ça me fait toujours énormément plaisir de les revoir et puis d'en rencontrer aussi des nouveaux. Donc c'est un bonheur, voilà.
On est à tes côtés depuis des années, 7e album déjà, est-ce que t'imaginais ça?
C'était dans mes rêves les plus fous, bien sûr, de faire de la musique. Mais j'aurais jamais cru qu'un jour déjà on me donnerait la chance de faire un album. Donc effectivement 7, non, j'aurais jamais imaginé, vraiment.
Où c'est que t'as envie de t'arrêter?
J'ai vraiment pas envie de m'arrêter en fait, jamais.
Bon, alors on continue à les numéroter, on se donne rendez-vous évidemment au fur et à mesure. Hein. Pour l'instant c'est 7, en tout cas 22 nouveaux titres.
C'est ça, 22 nouveaux titres. Alors effectivement, il y a aussi des titres en anglais, comme en fait il y a eu le petit clin d'œil au fait que je sois partie aux États-Unis, tout ça, on a un petit peu intégré ça. Puis aussi j'ai essayé de mettre un petit peu de ce qu'on appelle de la Tropical House. En fait au niveau des arrangements de certaines des chansons, c'était juste pour passer un petit peu... un cap aussi de, on garde toujours un peu, on va dire, ce qu'on appelle le noyau dur de ce que les gens ont l'habitude d'entendre, de nous, de moi, de Jean-François Porry, Gérard Salès et John Maccabi aussi. Et à la fois, on voulait rajouter cette petite touche juste pour évoluer un petit peu. J'avais besoin aussi d'évoluer. Et puis, apparemment, ça leur plaît. Donc, ça, c'est aussi pour mon plus grand bonheur. En fait, ils continuent de me suivre et c'est tout ce qui compte.
Qu'est-ce que ça avait changé, justement, de partir comme ça aux États-Unis pour enregistrer un album? Ce que tu as fait sur un des précédents?
Alors effectivement, quand on est parti aux États-Unis, c'était vraiment pour apporter cette touche donc très country qu'on avait sur certains titres, parce qu'effectivement là-bas, on avait une autre manière de procéder, c'est-à-dire qu'on était arrivé avec nos maquettes et en fait une fois qu'on était sur place, on avait les musiciens américains qui eux ont rajouté aussi leurs pattes au niveau des arrangements, dans leur manière de jouer aussi, et du coup ça a donné vraiment cet American touch, si on peut dire ça en fait. Voilà.
On peut pas dire franchement, Elsa, que tu es radine. Hein. Parce que sortir un album avec 22 titres, franchement, les gens en ont pour leur argent, là.
Alors, effectivement, pour cet album, j'avoue que j'avais été pas mal inspirée. J'avais énormément de chansons, en fait, on va dire, dans le tiroir. Et en fait, j'ai demandé à Jean-Luc Azoulay jusqu'à combien de titres, parce qu'il m'a dit, il va falloir qu'on trie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, pour chaque album, il me dit, faut qu'on trie. Et là, je lui ai dit, attends, vraiment, ça m'ennuie parce que j'ai beaucoup de titres que j'ai, moi, il y en a que j'ai pas envie de laisser de côté. On sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer celle-ci plus que celle-là, plus que celle que toi, t'auras choisi. Et en fait, je lui ai dit combien on peut en mettre en gravure d'un album. Et là, il m'a dit, OK, j'ai regardé, c'est bon. On peut mettre exactement ce qu'on a. J'ai dit, bah alors, s'il te plaît, viens, on les met toutes. Et là, il m'a dit, bon, OK, allez, d'accord, on va le faire.
Il y en a une qui s'appelle Au pays des mangas, qui, celle-là, est vraiment un peu un hommage à tous les génériques qu'on a pu connaître. Hein. On reconnaît les sonorités de Dragon Ball Z et bien d'autres encore.
Mais en fait, ce qui est génial, c'est que Jean-Luc Azoulay, c'est vraiment celui qui a amené les mangas en France avec le Club Dorothée. Donc, c'était effectivement tellement logique qu'il fasse une chanson sur les mangas. Et du coup, bon, bah, on s'est amusé aussi à tourner un clip clip qui arrivera aussi bientôt. Non, c'est chouette. Et j'étais contente aussi pour tous les fans de manga. Il y a des petites, des petits clins d'œil à tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils connaissent.
Nous, les quarantenaires, ça nous fait bondir.
Les petits rêves, quoi.
Voilà. Évidemment, ça nous fait réagir tout de suite. En ce moment, c'est comme une petite fille. Le clip vient de sortir.
Le clip vient de sortir, effectivement. Ouais.
Ça, c'est un beau, c'est une très très belle chanson. En tout cas, j'ai l'impression que les gens adorent.
C'est vrai qu'il y a eu de très très bons retours sur cette chanson. Donc, je suis vraiment impatiente de voir comment évolue le clip et si ça continue de leur plaire.
On l'écoute.
On l'écoute.
Allez, c'est parti. Comme une petite fille, Elsa Esnou est notre invitée aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. On revient dans un instant. On va parler des mystères de l'amour, évidemment aussi. À tout de suite.
Comme une petite fille, je pleure. Il est parti, mon grand bonheur. Il a oublié ses serments. J'ai tellement mal, maman. Comme une petite fille, j'ai peur. Que le vide s'installe dans mon cœur. Que s'effacent tous nos doux moments. J'ai tellement mal, maman. Il m'avait juré que jamais rien ne pourrait nous séparer. Qu'il serait toujours près de moi, qu'il n'aimerait que moi. Il m'avait promis pour toujours la plus belle des histoires d'amour. Qu'on resterait toujours ensemble, puisque tout nous rassemble. Je passe toutes mes nuits à pleurer. Tous ces baisers me manquent tant. J'ai tellement mal, maman. Comme une petite fille, j'ai mal. Il s'est enfui, mon idéal. Rien ne sera plus comme avant. J'ai tellement mal, maman. Jamais, jamais je ne retrouverai ce sentiment que j'avais d'exister. Qu'il y avait enfin quelqu'un qui m'aimait et qui me comprenait. Jamais personne ne pourra remplacer ce doux, ce tendre amour qu'il me donnait. Jamais je n'aimerai personne autant. J'ai tellement mal, maman. Comme une petite fille, je pleure. Il est parti, mon grand bonheur. Il a oublié ses serments. J'ai tellement mal, maman. Comme une petite fille, j'ai peur. Que le vide s'installe dans mon cœur. Que s'effacent tous nos doux moments. J'ai tellement mal, maman.
Écouter comme une petite fille. On se réécoutera un extrait aussi. Je te laisse le temps de réfléchir, justement. Toi qui as eu du mal à faire des choix, peut-être sur 22 titres. Eh bien, tu vas en avoir à faire encore dans quelques instants pour choisir un deuxième qu'on va faire écouter à nos auditeurs dans quelques instants. Elsa, Les Mystères de l'amour, c'est un carton qui ne se dément pas. Et je crois qu'en ce moment, Christian est en pleine opération reconquête.
Oui, ça, je peux vous le confirmer, effectivement. Et pour notre plus grand plaisir aussi à Sébastien Roch et moi-même, hein, je veux dire, on est vraiment très, très attachés à nos personnages, donc Fanny et Christian. C'est vrai que c'est un couple qu'on défend, on va dire, depuis quand même maintenant près de 10 ans. Donc, ça commence à dater. Et c'est vrai que moi-même, pour mon personnage donc de Fanny, hein, celui que j'interprète, j'ai tellement envie qu'elle retourne avec lui. Je la vois si malheureuse, je la vois souffrir à chaque fois quand je dois tourner des séquences, j'ai mes scènes, à chaque fois je la vois soit en larmes, soit en dépression, tout ça, je me dis bon allez, il serait temps qu'elle retrouve quand même l'homme de sa vie.
Et un peu de gaieté.
Voilà, un petit peu de gaieté, puis c'est vrai que lui-même on le voit triste aussi, donc je me dis allez, c'est obligé, il faut qu'ils se remettent ensemble. Donc Seb et moi, je pense que, enfin c'est même pas je pense, on en a parlé, c'est vrai que nous on aimerait bien là, et d'ailleurs je dis à tous ceux en tout cas qui suivent la série, continuez de regarder, de belles choses peuvent arriver bientôt.
Avant l'été, eh oui, parce qu'il y aura une petite coupure cet été hein, d'inédit, mais ça reviendra évidemment à la rentrée et vous pouvez suivre les aventures de Cri Cri d'amour et toute la bande tous les samedis, tous les dimanches à 19h50 sur TMC. C'est emblématique et c'est la série de tous les records, Les Mystères de l'amour. 35 saisons quasiment, là vous êtes à 35e en tournage, c'est totalement hallucinant, 14 ans de longévité. Si on rajoute Hélène et les garçons, si on rajoute le miracle de l'amour, si on rajoute les vacances de l'amour, on est, c'est affolant.
Bah, on peut vraiment dire aujourd'hui que c'est la série. Donc, effectivement, moi, quand je dis donc les mystères de l'amour, Hélène et les garçons, les vacances de l'amour, le miracle de l'amour, c'est la série la plus ancienne en France, en fait. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas, mais c'est en tout cas celle qui existe depuis, en fait, qui a le plus d'ancienneté. Donc, quelque part, c'est que elle plaît, le public est fidèle. Il aime, il adhère, il est toujours là. Et pour notre plus grand bonheur à nous tous, il a vu ses personnages évoluer. Et même moi, aujourd'hui, j'ai cette chance énorme, bah déjà, d'être aux côtés de ceux que je regardais quand moi j'étais petite. Et en plus, aujourd'hui, lorsque je suis en séance de dédicace et que je vois plein de petits bouts de choux, où les parents me disent « tu es sa première chanteuse ». Donc en fait, il y a vraiment l'évolution, il y a la nouvelle génération aussi qui arrive. Et c'est merveilleux. Et moi, je dis vraiment bravo à l'auteur, quoi. Donc Jean-Luc,
c'est ça qui est dingue, la traversée des générations que provoque cette série, parce qu'on a tous regardé la bande d'Hélène quand on était plus jeune, et aujourd'hui les parents transmettent ça à leurs enfants, et c'est ça qui est assez dingue. Et aujourd'hui, bah, ces mêmes enfants viennent à tes séances de dédicace, viennent à tes concerts, et ça, c'est dingue.
Vraiment, je trouve ça vraiment incroyable, et je crois qu'il y a un amour qu'on ne peut expliquer. Il y a une magie, et c'est cette magie là moi qui est, à laquelle je m'accroche en fait.
Mais t'as bien raison, en tout cas, parce que voilà, on aime en tout cas régulièrement suivre vos aventures. Puis il y a une autre aventure quand même pour toi qui a été assez incroyable, improbable, totalement hallucinante. Tu vois de quoi je veux dire ?
Les États-Unis, je pense.
Ben, amour, gloire et beauté, quand même. Alors, si nous, il va falloir qu'on attende un certain temps avant de découvrir ces épisodes-là. Ça y est, ils sont passés. C'est pas vrai, j'ai raté ça. Mais d'habitude, il y a plus de décalage que ça avec la France.
Ils sont passés parce que, même pourquoi ils sont passés ? Parce que dans les mystères de l'amour, ils avaient demandé l'autorisation qu'on puisse réutiliser ces images-là dans LMA. Et du coup, comme évidemment, c'est eux qui ont d'abord la priorité de les diffuser, comme ils ont été diffusés récemment dans les mystères de l'amour, je vous confirme qu'ils ont déjà été à l'antenne avant, du coup.
La différence entre le tournage de la France et les Américains, qu'est-ce que t'as ressenti là-bas ? Comment ils sont ?
Déjà, bon, nous, on a une chance énorme, c'est qu'en France, enfin, quand moi, je vais tourner avec mon équipe, c'est vraiment, tout le monde s'entend avec tout le monde, il y a une merveilleuse ambiance, on s'amuse, on s'éclate, c'est très sérieux, hein, mais on s'amuse, on s'éclate, et c'est bon enfant, etc. Là-bas, ils sont extrêmement gentils, mais c'est vrai que...
C'est très rigoureux.
Ouais, énormément, c'est très carré, vraiment pas le droit à l'erreur, mais c'est très très positif, hein. Mais ce que je veux dire, moi, quand je suis arrivée, j'étais très impressionnée, parce que déjà, ils étaient le triple de nous. Vraiment, il y avait énormément de monde sur le plateau. Alors, il y en a pas un qui a un téléphone dans la main, il y a pas un mot qu'on va entendre qui va perturber un autre, il y a un silence religieux, enfin, c'est hyper carré. Eux, l'heure, c'est l'heure. Quand ils disent fin de tournage à telle heure, c'est fin de tournage à telle heure. Au maximum, c'est 5 minutes de plus. Mais voilà, nous, des fois, ça peut déborder 2 heures de plus. Voilà, si on a du retard.
Sans Jean-Luc, oui.
mais en revanche, voilà, enfin, les deux sont hyper positifs des deux côtés. Mais voilà, mais c'est différent. C'est une autre manière de travailler. Et puis encore une fois, puis nous, on est moins nombreux aussi. Donc voilà, c'est pas comparable. Eux, par contre, ils sont pas en décor réel. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, donc c'était vraiment un plateau. C'est comme si j'étais arrivée sur un plateau télé. C'est-à-dire que nous, en plus, il y avait les rails avec les caméras immenses, alors que nous, on est en décor réel. C'est pas la même chose. C'est pas la même manière de faire.
Bon, continuons en tout cas à profiter des mystères de l'amour tous les week-ends jusqu'à fin juin. Il y aura une petite pause et on vous retrouvera évidemment dès fin août pour de nouvelles aventures qu'on va vous laisser le temps de tourner. Et puis l'album 7 est déjà en vente dans les bacs. Il y a des tournées qui se préparent encore, il y a des dates qui arrivent. Bref, tout va bien.
C'est ça, on croise les doigts pour que tout ça continue.
Voilà. C'est l'heure du choix de la deuxième chanson, Elsa. Pour se quitter, laquelle ?
J'ai même pas hésité, Évidence.
Évidence, eh ben écoute, on l'écoute maintenant, ça s'appelle Évidence, Elsa et Snoop, c'est deuxième extrait qu'on vous offre maintenant de l'album 7 d'Elsa. Merci Elsa d'avoir été avec nous.
C'était évident.
C'était une évidence. À très bientôt, on se retrouve pour le 8.
À très bientôt, ah bah oui, avec plaisir.
Comme une évidence, tous les deux, on s'est remarqué dans cette folle insouciance, on s'est reconnu, on s'est aimé et le monde a cessé tourné. On a foncé tête baissée à deux, on a osé se lancer. Retrouver en cachette ensemble, on perdait la tête. C'était peut-être trop tôt. On est peut-être allé trop vite. Tu n'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû prendre la fuite. Mais on s'est dit pourquoi pas tenter.
On se retrouvera. la peine qui m'envahit. C'est plus simple d'écrire ce que je ressens plutôt que des mots qui rimaient tout prix. Je repense à nos souvenirs pour que ça m'aide à écrire, comme notre premier regard ou notre premier sourire. Avec toi, rien ne pouvait me retenir. T'étais celui dont je rêvais, celui pour qui je n'aurais eu aucun regret, peu importe ce qui allait se passer. Mais merci, merci pour tous ces moments que tu m'as donnés. Grâce à toi, je me suis retrouvée. T'as chassé mes peurs et redonné un sens au bonheur. Alors même si ça pourrait être déjà fini, même si je pourrais être déjà partie, sache que je t'aimerai toute ma vie. Toute ma vie. On s'est promis de ne jamais se quitter, de s'aimer pour l'éternité. Parce que comme une évidence, à jamais, on est liés.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura deux coups de cœur ciné à vous proposer. Le premier consacré au film Nouveau Monde de Vincent Capello avec toute une partie de l'équipe qui viendra nous rejoindre. Et puis on parlera également du premier film d'Emmanuel Belaroski qui s'appelle Elle et lui, le reste du monde, qui viendra accompagné de Victor Belmondo. Et il y aura bien d'autres surprises encore.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays Basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.